Allez, on se fait plaisir. On reçoit en studio Marie-Claude Saint-Laurent et Maxime D. Pomerleau. Je me rappelle plus pour le D. C'était quoi déjà le D, Maxime?
Devil. Non, c'est pas vrai. Démarrais. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai.
Vous êtes venu nous parler d'une pièce, que tu as écrite ou co-écrite, Marie-Claude. Raconte-nous le propos de la pièce.
La pièce s'appelle « Guérilla de l'ordinaire ». C'est une pièce qui aborde les violences ordinaires faites aux femmes, les violences particulièrement sexistes. Et puis, on aborde aussi d'autres questions, d'autres violences qui peuvent être faites à différentes femmes. Par exemple, bien sûr, le racisme, le capacitisme. On traite de ces différentes violences qui s'immiscent dans la vie quotidienne, ces petites et grandes violences. Puis, la pièce se passe dans une vigile à la mémoire d'une femme disparue. On se retrouve au moment où ça fait un an qu'elle est disparue, sans laisser de traces. On ne connaît pas les raisons de sa disparition, mais au contact des personnes qui la connaissent de près ou de loin, on en découvre un peu plus sur son identité au fil de la pièce. Et cette vigile est sans cesse interrompue par ce qu'on appelle des fractures. Ce sont des chroniques très frontales où on vient justement dénoncer ces différentes violences par l'humour, une arme redoutable.
L'expression même « violence ordinaire » a quelque chose qui râpe. On a l'impression que c'est juste avant « violence normale ». Vous avez choisi aussi une distribution particulière, on va le dire, là, une distribution très éclectique. Parlez-nous-en aussi.
Je dirais une distribution très diversifiée. Oui, on avait envie de convier des femmes qui vivent des expériences différentes des nôtres, puisque Marie-Ève et moi, là, la co-autrice qui fait aussi la mise en scène, Marie-Ève Milot, du spectacle, avec qui je co-dirige cette compagnie de théâtre. On avait vraiment envie d'aborder ces violences-là d'un point de vue plus intersectionnel. Parce que c'est une pièce très féministe. Et puis, donc, on a convié des femmes qui vivent des expériences différentes, mais aussi des femmes qui se retrouvent à militer, parfois sans le vouloir, pour différentes causes. Par exemple, comme Maxime, j'ai envie de tendre la parole parce que tu me parles de ton expérience dans ce spectacle.
Oui, Maxime, alors...
Oui, ben en fait, pour la petite genèse, j'ai rencontré Marie-Ève Milot dans le cadre d'une résidence, si on veut, du Festival Transamérique en 2017. Et ça a super bien cliqué. Puis elle m'a vue aussi en performance dans la même période. Donc, ça a commencé à germer, en fait, dans sa tête que je pourrais peut-être faire partie de sa prochaine mise en scène. Et donc, quand elle m'a abordée avec ce projet-là, « Guérilla de l'ordinaire », c'était aussi pour intégrer justement, alimenter en fait le processus dramaturgique par rapport à mes expériences, mes différents types d'oppression ordinaire justement que je peux vivre et qu'on a envie de ne pas ignorer et de pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Donc le personnage que j'incarne, par exemple, par rapport à la femme disparue, c'est sa coloc. Donc, on travaille ce lien-là qu'elle a créé avec la femme disparue, donc un lien plus intimiste et plus dans le quotidien aussi de vivre avec quelqu'un, mais également le fait que le personnage est en fauteuil roulant, comme moi, donc on ne l'élimine pas, c'est pas un aspect qui a été purgé, tu sais, du personnage. Donc, on en fait partie. Alors, le travail, ça a été aussi de regarder...
Trouver la distance.
Oui, mais comment l'intégrer sans que ça soit plaqué non plus, puis sans que... Et de l'utiliser dans l'humour aussi, je pense.
C'est quand même pas simple, effectivement. Déjà que pour bien les spectateurs au Québec, bien les auditeurs télé notamment, on n'arrive plus à distinguer le personnage du comédien qui l'incarne. Dans ton cas en particulier, toi qui es en fauteuil roulant, qui joue donc quelqu'un en fauteuil roulant, ça devient difficile de pas s'imaginer...
Ben, tout à fait. C'est vraiment, vraiment super bien résumé. Un des principaux enjeux, en fait, mon début de carrière, si on veut, puisque je me considère comme une artiste émergente. Ça fait quelques années que je suis active sur les scènes professionnelles à Montréal. Et le défi, c'est vraiment toujours ça. C'est toujours, particulièrement dans l'acting, c'est de faire valoir qu'on a soit une formation, des connaissances, des compétences, un talent. Et de le faire valoir au-delà du fait que c'est pas parce que je suis en fauteuil que je ne peux qu'incarner des personnes en fauteuil. C'est pas écrit dans le script là, que la coloc est en fauteuil roulant, mm-hmm. C'est juste un rôle qui a été attribué. Et c'est vraiment un gros défi de briser ce préjugé-là et cette perspective-là aussi. Mais je dirais aussi que d'autres actrices du casting aussi ou de d'autres productions peuvent se retrouver avec ces enjeux-là, particulièrement lorsqu'on vient de milieux marginalisés ou de la diversité culturelle, mm-hmm. qu'on a un artiste autochtone, trans et autres. Donc, on est souvent ramené à nos étiquettes davantage que par ce qu'on peut apporter à une production.
Oui,
ce qui
n'est pas le cas. C'est récurrent sur le micro de constater à quel point, notamment, les gens voit le handicap et voit plus la personne. C'est-à-dire, des amis non-voyants, notamment, on voit le chien, on lui parle plus à elle. C'est assez scandaleux.
Tout à fait.
Et dans la pièce, on se joue un peu de ces étiquettes. Parfois, on les utilise de façon, justement, très frontale, très assumée, en les nommant. Et parfois, on s'en détache par les chroniques, justement, où dans ces chroniques-là, toutes les comédiennes et les comédiens incarnent différents personnages qui n'auront pas de lien nécessairement avec ces identités-là étiquetées.
Mm-hmm. Le reste de la distribution, parce qu'on ne veut pas oublier personne, ça inclut donc vous-même, Marie-Claude?
Oui. C'est une très grande distribution dans une très petite salle. C'est quelque chose qui me rend fière de prendre ce risque-là, d'arriver avec une grande distribution. Alors, il y a Pascal Drevillon, Maxime de Cotteret, Myriam Deverger, Soleil Launière, Mathilde Laurier, qui est une autrice, compositrice, interprète qui fait la musique live sur scène, Jonathan Caron,
Sarah
Laurando. Je crois que j'ai traversé toute la distribution, j'espère que
c'est imposant. Vous parliez d'une petite scène, on parle de laquelle?
On parle de la salle Jean-Claude Germain, qui est la petite salle du Centre du théâtre d'aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes en résidence, en fait, ma compagnie, là, le Théâtre de la Famille? Mm-hmm. C'est notre deuxième production là, sur une résidence de 2 ans.
Et ça va être monté à quelle date?
Ça commence dans une semaine exactement, le 5 mars, jusqu'au 30 mars, parce que je vous annonce en primeur que nous aurons une représentation interprétée en LSQ le 30 mm-hmm. mars à 16 heures. Ce sera l'annoncé dans les prochains jours, là, je vous le...
Et c'est aussi une production qui est éventuellement appelée à avoir une vie post-première scène?
Je le souhaite. Étant une petite compagnie, je ne peux le savoir avant qu'on expérimente et puis qu'on aille à la rencontre du public.
Écoutez, il me reste à vous laisser le mot de Cambronne, parce qu'on est à la radio quand même. Et à souhaiter une longue vie à cette pièce-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci pour l'accueil.
Merci beaucoup.